Bonjour, ici Marc Levasseur. Je vous souhaite la bienvenue à Django et compagnie, l'émission consacrée au jazz manouche et aux musiques apparentées. Jazz, musette, musique des Balkans, tzigane, flamenco, klezmer, musique du Moyen-Orient et évidemment, musique du monde. Des variations musicales teintées d'influences locales, c'est-à-dire qu'il y a un accent local qu'on peut déceler ou non dans ces pièces, dans la façon dont ces pièces se sont jouées ici au Québec, ici à Montréal, mais aussi ailleurs dans le monde. Je vous rappelle que nous sommes diffusés deux fois la semaine, les mercredis et les vendredis en soirée, sur les ondes de CIBL 101,5. Ces épisodes sont rendus disponibles, tous les épisodes en fait sont rendus disponibles sur différentes plateformes, notamment sur Facebook et Instagram, à partir d'une page nommée « Montréal est jazz manouche ». Alors je répète le « E-E-S-T »,« Montréal est jazz manouche ». Cette semaine, le quatrième épisode de la série de cinq chroniques que nous a proposé la charmante, la pétillante, la très bonne Christine Tassin. Bonjour Christine.
Bonjour.
Sur la vie du créateur, l'inventeur du jazz manouche, le virtuose en fait qu'on peut dire, qui s'appelle Django Reinhardt pour ceux qui... Il est phénoménal aussi parce que c'était vraiment quelqu'un. Puis avant de rentrer un petit peu dans la vie de Django, on va écouter une pièce parce que Django, à un moment donné, a une fascination pour Duke Ellington. Alors, il a nommé deux de ses chats de son nom qui s'appellent Duke et Dookie. Et il en a fait une pièce que l'on écoute à l'instant.
Thank you.
Duke and Dookie, en l'honneur évidemment de Duke Ellington, quelqu'un que Django admirait énormément, mais donc c'était la pièce qu'il enregistrait en sa mémoire ou en son honneur plutôt. On revient un petit peu avec Christine Tassan. La semaine dernière, on s'est quitté en parlant de la relation entre Django et Stéphane Grappelli. Et là, évidemment, la Deuxième Guerre va se terminer, puis ils vont se retrouver. Alors, Christine Tassan, rebonjour, et on vous laisse le microphone.
Oui, alors, donc, Django et Grappelli ont été séparés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Grappelli était resté à Londres pendant que Django vivait des heures de gloire à Paris, occupé. Et ils se retrouvent à la Libération. Et donc, en 1945-1946, là, les tournées recommencent. Donc, le quintet du Yacht Club de France recommence à faire des tournées et des enregistrements aussi. Et puis, à un moment donné, en 1946, Duke Ellington décide d'inviter Django Reinhardt à venir en tournée avec lui aux USA, aux États-Unis. Alors, ils s'étaient déjà rencontrés, Duke Ellington et Django s'étaient rencontrés juste avant le début de la guerre, en 1939. Et tous les deux, ils avaient sympathisé.
La mayonnaise avait pris.
C'est ça. Et puis, ils s'étaient dit que vraiment, ils voudraient jouer ensemble. Alors, juste après la guerre, voilà que Duke Ellington invite Django. Et c'est pour une tournée sur la côte est américaine. Donc, ils vont jouer à Chicago, Cleveland, Détroit et Pittsburgh. Et ils l'invitent aussi pour deux concerts dans la salle mythique du Carnegie Hall à New York.
Oui, mais il y a d'autres choses là-dessus. Là.
Alors, oui. Enfin, bon, alors, ce qui se passe, c'est que Django donc, va partir aux États-Unis, mais c'est un petit peu étrange la manière dont il est très mal préparé pour cette tournée. Lui, il a une espèce de rêve américain dans la tête. Il pense qu'il va
comme
devenir...
Comme bien des Français.
Ouais, ben oui, oui, mais il est fasciné par les films des westerns. Donc, bon, il a cette image-là dans la tête. Alors, il va arriver aux États-Unis. Vraiment, c'est particulier parce que il est sûr qu'il va arriver un peu comme déjà une vedette là-bas. Donc, il se pointe aux États-Unis. Il n'a pas sa guitare.
On lui avait promis une guitare, mais il ne l'avait pas.
Je ne sais pas si on lui avait promis une guitare.
Oui, on lui avait dit qu'il y aurait une guitare, mais on lui est arrivé qu'une guitare qui n'avait pas rapport. Il ne pouvait pas.
OK. Hein. Bon. Puis, donc, il n'a pas sa guitare habituelle, qui est les guitares Selmer McAfee. Donc,
oui,
on n'a
oui,
pas
oui.
parlé, mais ce qui pourrait être le sujet d'un autre épisode.
Oui, tout à fait.
Et puis, il n'a même pas. Enfin, je veux dire, il n'a même pas de bagages. Il arrive vraiment en gitan. Il se pointe là à New York. Et puis, en plus, bon, il ne parle pas anglais. Alors là, il y a un petit côté un peu sombre de la personnalité de Django. Il a écarté Grappelli parce que Duke Ellington avait invité Stéphane Grappelli aussi à venir le rejoindre en même temps que Django. Et Django, dans ce que j'ai trouvé, dans la documentation que j'ai trouvée, Django ne l'a pas dit à Grappelli. Donc il arrive tout seul. Grappelli parle anglais, mais Django ne parle pas anglais. Et puis aussi, Duke Ellington a contacté Django directement. Donc d'une certaine manière, Django a, on va dire en bon français, bypassé son agent de l'époque, qui est Charles Delaunay. Il ne l'a pas dit à son agent. Donc son agent, lui, quand il a appris ça, il a décidé qu'il ne viendrait pas non plus aux États-Unis. Donc Django part tout seul, il se pointe là-bas, il n'a pas de guitare, il n'a pas de bagages. Donc il se retrouve un peu parachuté là. Et en plus, il arrive dans le big band, donc le grand orchestre de Duke Ellington. Il y a beaucoup de musiciens. C'est quand même une ambiance avec une discipline assez stricte. Il faut arriver à l'heure et tout. Et Django n'a pas cette habitude-là d'arriver à l'heure. Donc, il a un petit peu de la misère à se mettre au diapason de l'orchestre de Duke Ellington. Alors, voilà. C'est comme ça que ça commence, cette tournée-là. Alors, il y a un enregistrement. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je ne savais pas qu'il y avait un enregistrement d'un concert que Duke Ellington et Django ont fait à Chicago. Et j'ai trouvé 4 morceaux qui ont été enregistrés. Donc, on pourrait en écouter un des premiers morceaux qui s'appelle Blues Riff.
On écoute Blues Riff et on vous revient de suite. Thank you. 1946 aux États-Unis de l'Amérique, à Chicago plus précisément. Alors là, Django est avec l'orchestre de Duke Ellington, mais c'est pas exactement ce que lui avait en tête, ou enfin c'est pas la situation idéale pour plusieurs raisons, notamment parce que Django avait pas sa vraie guitare, puis Django il avait pas vu son nom sur l'affiche, alors il était pas tout à fait content. Alors voilà.
Oui, en fait, j'ai l'impression que ça s'est fait rapidement, cette histoire-là. C'est que Django est parti assez rapidement sur l'invitation de Duke Ellington. Et du coup, bah, les gens qui faisaient la promotion, les affiches étaient déjà imprimées, déjà placardées. Donc, il n'y avait pas le nom de Django sur les affiches. Ça, c'est une première chose. Alors, c'est sûr que Django était déçu de ça. Puis bon, comme il s'est pointé aux États-Unis sans sa guitare habituelle, on lui a trouvé une guitare électrique. Il n'avait jamais joué sur des Gibson, qui étaient des guitares électriques. Donc, bon, il était plus ou moins... il n'était pas habitué du tout. Donc, il y a eu un temps d'adaptation. Mais on peut quand même entendre dans l'enregistrement qu'on vient juste de passer que, OK, il n'était peut-être pas très habitué, mais il jouait quand même très, très bien sur les guitares électriques.
Oui, oui, il y avait sa place, mais on ne l'a pas nécessairement intégré au complet à l'orchestre.
Alors, c'est ça qui est arrivé, c'est que Duke Ellington... en fait, la manière dont ça se passait, c'est que Duke Ellington faisait la première partie du spectacle avec son orchestre. Et en deuxième partie, il y avait Django qui arrivait et qui jouait accompagné par l'orchestre, mais qui n'était pas vraiment intégré aux arrangements que Duke Ellington a pu écrire pour orchestre. Donc il arrivait là un peu comme une vedette, ok, accompagnée mais pas complètement intégrée à la musique de Duke Ellington. Alors c'était un petit peu étrange comme ambiance.
Ça c'est quand il arrivait.
Alors voilà, là, en fait il y a eu vraiment un incident majeur qui est arrivé, c'est que il y a eu ces deux fameux concerts au Carnegie Hall. Alors, le premier soir, ça s'est très bien passé. Django, donc, a joué en deuxième partie accompagné par l'orchestre de Duke Ellington. Il y a eu des ovations. D'ailleurs, on entend dans l'enregistrement comment le public était délirant parce que c'était vraiment des prestations hallucinantes. Et donc, il y a eu des ovations, il y a eu des rappels et tout. Bon, ça, c'est le premier soir, ça s'est bien passé. Deuxième soir, il y a eu un incident qui a mis quelque part un terme à la carrière de Django à l'époque aux États-Unis.
Oui, ouais,
vraiment. Parce que Duke Ellington commence à jouer la première partie et Django n'est pas là. Alors, normalement, Django devait jouer en deuxième partie vers 10h30 et Django ne se présente pas. Alors, Duke Ellington attend un peu, il fait patienter les gens dans la salle et finalement, il s'excuse en disant « Bon, ben, Django ne pourra pas venir ce soir. » Il ne dit pas la raison, il ne sait pas pourquoi Django n'est pas là. Et finalement, il commence à jouer, Duke Ellington, avec son orchestre et quelqu'un vient lui dire à l'oreille, vient lui murmurer que Django est arrivé. Et il est 11h du soir, Django se pointe là, en taxi. Il n'est pas habillé avec ses habits de concertiste, il n'a pas sa guitare. Alors, on lui trouve une vieille guitare dans les loges, qui est désaccordée. Alors, il arrive sur scène avec cette guitare-là, ça lui prend 5 minutes à accorder la guitare qui est complètement désaccordée. Et puis bon, finalement, il va commencer à jouer. Et là, encore une fois, c'est des ovations et des rappels à n'en plus finir. Sauf que Duke Ellington ne lui pardonnera jamais cet affront, parce que quand même, il faut le faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que Django n'était pas là ? Eh bien, finalement, Django, dans l'après-midi, a rencontré Marcel Cerdan, qui est un boxeur français, qui était de passage à New York aussi. Et Marcel Cerdan, c'était l'amoureux et le mari d'Edith Piaf. Et les deux Français se sont retrouvés donc là.
Au bistrot.
Au bistrot, exactement. Ils ont été prendre un coup ensemble. Et du coup, Django a complètement oublié. Alors, oublié entre guillemets, est-ce que c'est... C'est un acte manqué, là, on peut dire ça.
Une pour le concert, une pour la route.
Voilà. Et puis, bon, à un moment donné, il s'est aperçu que, OK, il était 10h30 et il fallait qu'il se rende au Carnegie Hall. Donc, voilà. Et c'est comme ça que ça s'est passé.
Mais il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. C'est-à-dire qu'on a un monsieur qui s'appelle Duke Ellington, donc qui est un noir américain qui a réussi à se monter un orchestre. Et c'est très carré, c'est très organisé. Mm-hmm. Et nous avons de l'autre côté un gitan, en fait, un manouche qui, lui, joue autour des feux de camp, et c'est lorsque le moment est bon. Et c'est un peu la rencontre de ces deux. Finalement, ce sont deux philosophies différentes qui s'affrontent dans cet événement-là.
Oui, oui. Enfin, en même temps, Django n'est pas juste autour d'un feu de camp. Là,
c'est
une star mondiale. Hein. C'est une star. Donc, il a quand même l'habitude des gros concerts dans des grandes salles de spectacle et tout. C'est un professionnel. On peut dire que c'est pas un amateur là.
Non, tout à fait.
Donc, c'est plus une. Moi, je dis que c'est plus un trait de personnalité dans sa vie en général. Il a toujours été comme ça. C'est-à-dire
Il partait à la pêche.
Exactement. Il arrive un peu à l'heure qui lui tente. Voilà. Souvent même dans des enregistrements, il se pointait à la dernière minute dans le studio d'enregistrement. On lui faisait jouer une fois le morceau. Il avait une oreille tellement exceptionnelle qu'en une fois, il était capable de jouer. Puis on partait l'enregistrement et voilà, c'est comme ça que ça se passait. Sauf qu'aux États-Unis, ça passe pas. En France, peut-être que ça marche, mais
voilà,
pas là.
C'est là où je voulais en venir, en fait. Et il y avait d'ailleurs un Américain qui faisait la même chose qui s'appelle Charlie Parker. Il arrivait n'importe quand en studio. Des fois, il l'attendait pendant 2 jours, il n'était pas là. Pour d'autres raisons, par exemple, dans son cas. Là.
Oui, c'est ça, mais bon, dans le cas de Django, alors ça, quelque part, ça met un peu un terme. Bon, enfin, ils ont continué à jouer encore ensemble, je pense. Ils ont terminé la tournée. Django a joué, il est resté 2 semaines à New York et il a joué dans un club de jazz qui s'appelle le Café Society Uptown. Là encore, ça s'est plus ou moins bien passé parce que comme il ne parlait pas anglais, il pouvait pas vraiment faire des interventions avec le public, parler entre les morceaux. C'était un public quand même assez bruyant. Donc, ça faisait 3 mois qu'il était aux États-Unis. Il en a eu marre et il a décidé de rentrer en France.
Et d'ailleurs, il a dit, le seul, aux États-Unis, il n'y a que Frank Sinatra. C'est ce qu'il a dit.
Alors, en arrivant en France, c'est ça, il a gardé quand même une...
Il était amer.
Il a gardé une certaine amertume de ce passage-là. Il a été déçu. Lui, il pensait rencontrer des musiciens là-bas. Les musiciens étaient en tournée. Donc, il est rentré en France et... Et puis il a dit, moi, ce que j'ai vu de bien là-bas, c'était Frank Sinatra, alors qu'il avait joué... Frank Sinatra était très bon, mais il avait joué pendant quand même un certain temps avec Duke Ellington. Donc il a gardé vraiment une vision assez amère de ce passage-là.
C'était peut-être un pont entre deux cultures qui a plus ou moins bien fonctionné dans ce cadre-là, parce que évidemment, là, tu sais, en France puis à l'Amérique à l'époque, c'était un peu différent, mais bon. On a d'ailleurs un autre enregistrement. Vous nous avez dit qu'il y en avait 4. On en a trouvé un second, parce que les autres, on ne pouvait pas y avoir accès, les 2 autres. Alors, Red Ride de Django et justement avec l'orchestre de Duke Ellington qu'on écoute de suite. Thank you. Un souvenir heureux du passage de M. Django Reinhardt aux États-Unis avec l'orchestre de Duke Ellington, donc à Chicago en 1946, si je me rappelle bien. Donc, ça nous amène à Django, on l'a dit un peu tout à l'heure, juste avant la pièce, il était un peu moins... Il était tiède, on va dire, par rapport à son passage aux USOV.
Oui, bien, en fait, c'est... Lui est resté amer, mais il faut quand même voir que ça a été un passage qui a marqué les Américains quand même. Hein. Il a fait sensation aux États-Unis et je me demande s'il n'est pas venu aussi au Canada.
Toronto. En tout cas, il est venu à Toronto.
Donc ça a été... il a eu un passage quand même très remarqué. Mais lui, à cause de le fait qu'il ne se sentait pas très bien intégré... Il a gardé un souvenir assez amer de ce passage-là. Il a été déçu. Puis il voulait rencontrer des musiciens comme Thelonious Monk, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, parce qu'il commençait, Django commençait à s'intéresser au bebop aussi, qui était la suite du swing. Et puis il n'a pas pu les rencontrer parce que tout le monde était en tournée. Donc voilà, il a été déçu à plusieurs niveaux.
Non, on peut comprendre parce que le bebop, c'était vraiment... Et Django, si on suit un peu, là, d'ailleurs, tout ce que vous nous racontez, c'est qu'il a changé souvent, il a évolué, on voit son évolution clairement, Django Reinhardt, comme musicien. Là.
Ah ben, tout à fait. Il est passé du swing, en fait, il est passé de la musette, du jazz musette, voilà. De la valse musette, donc des accordéonistes, au swing, et puis après, au bebop, en passant aussi par le classique, parce qu'il écoutait beaucoup de musique classique, et il intégrait aussi toute la musique
Ravel,
impressionniste de l'époque, il l'intégrait à son propre jeu et à ses propres compositions. Donc vraiment... Il a réussi à intégrer de multiples influences et il a eu une évolution fulgurante en peu d'années, puisqu'il est mort quand même assez jeune.
Oui, tout à fait. Alors, 43 ans. Alors, on reviendra d'ailleurs lors du prochain épisode sur justement le bebop, hein, puisque vous avez parlé de Charlie Parker, qui est vraiment Monsieur Bebop. Sur ce, on va vous laisser avec une pièce de Monsieur Django Reinhardt et du Quintet Hot Club de France qui s'appelle Hanuman. Alors, on écoute de suite et c'est tout pour cette semaine. Alors, on va faire un petit extra dans 30 secondes. Sur cette magnifique balade de Django Reinhardt, nous devons déjà vous quitter. Alors, chroniqueuse Christine Tassin, à la régie Lucas Eppensperger, Maurice Bolduc, thème d'ouverture, animation et réalisation Marc Levasseur. C'est tout pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des fascinantes aventures de Django Reinhardt avec Christine Tassin. Alors, d'ici là, portez-vous bien, soyez des nôtres et bye-bye!